Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la merde qui s'est fait nommer en Bretagne, il était un instituteur de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.
Bonjour tout le monde. Ce matin, je retrouve mon invitée du matin, Sophia Tailly, pour continuer de vous faire découvrir ou redécouvrir cette artiste noire américaine qui était Nina Simone. Bonjour Sophia.
Bonjour.
Alors, hier, on a un petit peu évoqué la vie privée de Nina Simone, notamment avec son mari, ancien policier, avec qui elle a été mariée quand même une dizaine d'années, qui était violent, comme vous le disiez. C'est très étonnant quand on connaît la personnalité de Nina Simone, qui était un caractère bien trempé, qui était une femme qui ne s'en laissait pas compter. Comment elle a pu arriver à cohabiter avec cet homme-là aussi longtemps ?
Bah parce que très vite, Andrew Stroud s'est imposé comme son manager et a géré toutes ses affaires, toutes les histoires de concerts, toutes les tournées, toutes les relations avec les maisons de disques, toutes les relations avec les distributeurs, toutes les relations commerciales, toutes les relations promotionnelles. Donc très vite, il a pris beaucoup de place dans sa vie. Et Nina Simone, c'était une musicienne. Et les musiciens, très souvent, n'ont pas envie de gérer tout ça, ce que je comprends grandement. Donc elle avait quelqu'un pour gérer son business et c'était très bien comme ça. Et donc je pense qu'il a pris énormément de place comme ça. Puis je pense que très vite, il a su imposer une influence énorme et une manipulation énorme sur elle, en fait, prendre vraiment une pleine emprise sur elle, comme il y a souvent le cas dans les relations violentes.
Et il avait en plus un argument, enfin il devait jouer un petit peu sur la corde sensible de Nina Simone, parce que son argument c'était « tu vas devenir riche ». C'était un petit peu l'obsession de Nina Simone, le retour à la pauvreté. Cette peur du manque,
je pense, oui,
de son enfance où ils ont connu la misère.
Je pense, oui, qu'il y avait certainement de ça. Et puis je pense qu'il y avait surtout la peur de se retrouver abandonnée si jamais il arrêtait de faire le boulot. Bien que elle était de plus en plus fatiguée au fur et à mesure de sa carrière et qu'elle lui l'a dit et que lui ne l'a pas écoutée. Et a continué à enchaîner les tournées, les enregistrements, les promotions.
Et puis qui l'empêchait de s'occuper de sa fille, puisque oui. C'est entre-temps, elle a quand même eu une petite fille.
Oui.
Et c'était un drame aussi dans sa vie, de ne pas pouvoir avoir plus de temps à accorder à cette petite fille, quoi.
Oui. Je pense qu'elle aurait aimé prendre un temps pour être juste maman, et puis ça ne lui a pas été accordé.
La maternité a été un tournant dans sa vie en termes musicaux. Est-ce que ça a eu une influence ?
En termes musicaux, non, mais je pense que ça a peut-être accru son engagement. Parce que je pense
qu'elle se battait aussi, du coup, pour les droits de sa fille.
Tout à fait. Quand tu deviens maman, tu n'as pas envie que surtout ton enfant noir ait voulu dans une société raciste, en fait. Parce qu'on sait les problèmes que ça va causer. Donc je pense que ça a peut-être...
Accentuer son engagement,
oui, tout à fait. Ouais.
Engagement politique qui n'était pas spécialement féministe, qui était plus en faveur de la communauté noire, mais les hommes comme les femmes.
Complètement. On la décrit souvent comme une féministe. Alors, si le fait d'être une femme qui se lève pour un combat pour des droits universels fait de cette femme une féministe, alors oui, c'était une féministe. Si... on a un autre discours. Alors non, Nina Simone, c'était pas une féministe. C'était quelqu'un qui se battait pour des droits humains. En l'occurrence, elle voyait la situation des Noirs afro-américains aux États-Unis. Lauren Hansberry, elle avait une vision plus grande encore de ça. Parce que elle pensait que le combat des droits civiques, le combat pour la dignité des Noirs afro-américains, c'était une toute petite partie de la grande lutte des classes entre dominés et dominants. Et ça encore, moi, c'est un concept qui m'a complètement ébloui. Parce qu'effectivement, on est bien dans une lutte des classes. On n'est pas... C'est trop simpliste de résumer ça à noir-blanc. Nina Simone le résumait à noir-blanc. Mais c'est plus complexe que ça. On est dans un rapport de dominé à dominant. Et plus tard, elle a une vraie réflexion par rapport à ça. Elle le dit elle-même, où elle dit, là, aux États-Unis, on était dans un contexte où les Blancs avaient le pouvoir et les Noirs pas. Mais peut-être que si la situation avait été inversée, que les Noirs avaient eu le pouvoir et que ce soit les Blancs les esclaves, probablement que la situation aurait été la même. Pour les Blancs, je veux dire, dans ce rapport dominé-dominant. Et du coup... C'est vraiment un combat pour moi qui est universel. Et oui, pour moi, c'est trop simpliste de garder ça. Hein. C'est un combat, les noirs, les blancs. Non, on est vraiment dans une question de dominé, dominant. Et on est dans une situation qui a été amenée par l'argent. L'esclavage, il a été créé par le but commercial, pour de l'argent. Pas pour... c'est l'esclavage qui a créé les races. C'est pas la race qui a créé l'esclave. C'est deux choses bien différentes. Lawrence Bury avait vraiment... théorisé ça. Et Nina Simone étant beaucoup plus trash et beaucoup plus radicale et beaucoup plus terre-à-terre. Et puis parce qu'elle, elle était confrontée à ce problème-là sur son territoire de face, en tant que femme noire. Bon, alors après, pour autant, je pense que Nina Simone, on l'a vu dans sa carrière, elle, tout ce qui était, je sais pas, mais je pense qu'une une artiste féministe en général, ben elle va garder beaucoup plus le contrôle sur ses affaires, sur les affaires commerciales, parce que la musique c'est aussi ça, hein, il y a le côté scénique et magique, mais il y a aussi le côté très terre à terre, qui est un milieu très dur, le milieu du business, en plus le milieu du business à l'américaine, où je pense que bon, ça doit pas rigoler beaucoup. Et elle a complètement abandonné ça. Donc voilà, elle se laissait guider, elle se laissait mener. Elle n'avait aucun contrôle sur où elle jouait. La seule chose sur laquelle elle avait contrôle, c'était son répertoire, l'heure où elle arrivait sur scène.
Qu'elle maîtrisait complètement, toujours en retard. Complètement,
mais ça passait toujours. Hein. Je crois qu'il y a une anecdote où... quelque part aux États-Unis, elle est arrivée avec 2h30 de retard sur scène. Le public huait, criait, jetait des trucs sur la scène. Elle est arrivée...
Comme une fleur,
en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais je suis là ! On y va !» Voilà. Public apaisé en 2 minutes, concert de folie. Bon, ça, c'était Nina Simone, c'était son travail, c'était les choses qu'elle savait faire. Le reste, je pense qu'elle ne voulait pas en entendre parler. Et puis, elle n'avait pas, encore une fois, elle n'avait pas cette idée de combattre uniquement pour les femmes. Mmh. Elle combattait une injustice humaine. Et en ça, moi, je me retrouve vraiment. Parce que je pense qu'on peut... Il faut faire attention en termes de féminisme. Il ne faut pas se tromper de combat. Moi, je pense qu'une féministe, une femme, c'est un humain comme les hommes. Et je pense qu'elle, elle ne faisait pas cette différence-là non plus. Et en ça, j'arrive à me relayer, ouais, tout à fait. Ouais.
Alors, est-ce que c'est... Elle a beaucoup voyagé. Alors, c'est l'Europe, c'est l'Afrique... est-ce que ça a participé, son voyage par exemple au Nigeria qu'elle fait, a participé aussi de ses convictions, de ses engagements? Elle va aussi sur le terrain, quoi.
Elle va sur le terrain et puis et quand elle arrive au Nigeria, et ben elle a subitement la prise de conscience de ses racines. Elle les ressent. Et moi, ça c'est quelque chose que je comprends pour l'avoir vécu. La première fois que je suis allée en Afrique, j'avais 21 ans. Et j'étais très... On sent l'origine. On sent la terre, on sent son corps qui est différent. On sent...
C'est comme un retour...
Retour aux sources. Même si... un retour aux sources, bien sûr. Il est évident que Nina Simone, jamais de la vie, elle aurait pu... Enfin, elle a essayé, hein, on verra un petit peu plus tard, mais elle a quand même passé 3 ans à vivre au Liberia. Donc, elle a quand même tenté ce retour aux racines. Mais je pense que ça ne peut être que des racines. Ça ne peut être que des origines qui sont présentes dans le quotidien, qui sont présentes dans notre ressenti, mais ça ne peut être que des origines. Sa vie, Nina Simone, elle était aux États-Unis. Sa carrière, elle était aux États-Unis. Mais de revenir en Afrique, Alors surtout qu'en plus, les Africains, à cette époque-là, l'époque où elle est arrivée aux États-Unis, bah, il y avait de plus en plus de pays qui obtenaient leur indépendance.
Au Nigeria ?
Alors, au Nigeria, mais pas partout, partout en Afrique noire. Hein,
oui, quand elle, est arrivée, en Afrique.
Voilà.
C'était les années 60.
Il y avait c'est ça. Donc, il y avait de plus en plus de pays qui obtenaient leur indépendance. Et beaucoup d'Africains regardaient les États-Unis, les Noirs américains, comme... Voilà, l'émancipation totale, la coulitude incarnée. Et moi, j'avais...
Un modèle.
Et moi, j'avais clairement ce regard-là pendant des années. Parce que... voilà, parce que oui, un modèle d'émancipation, un modèle de création, un modèle de prise de position, un modèle de posture dans la société. Et du coup, de se retrouver en Afrique, oui, je pense que ça a fortement encore plus influencé ses actions aux États-Unis, parce que bah, il y avait cette découverte des racines et cette découverte de bon bah qu'est-ce qu'on en fait aux États-Unis quoi. Alors à cette époque-là, elle est devenue très amie avec Myriam Makeba, qui était la petite amie de Stokely Carmichael, Stokely Carmichael, qui était un des grands acteurs politiques qui faisait beaucoup de meetings. Et Myriam Makeba venait d'Afrique du Sud, pays ultra ségrégué. Donc il y avait cette, bah, ce lien, ce pont, de toute façon, qui pourra jamais s'effacer, de toute façon. Mais il y a aussi cette notion d'être coupé de ses racines. Et c'est quelque chose que j'arrive à comprendre assez facilement. Alors évidemment, on ne peut pas comparer l'histoire de la France avec les histoires des États-Unis. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement séparées. On est bien d'accord. Sauf que les communautés ici présentes en France, pour beaucoup, ont gardé ce lien direct avec l'Afrique, dans le sens où bah, quand tu viens du bled et que tu habites dans le 9-3, bah, pendant les vacances d'été, tu retournes au bled. On parle encore la langue du bled dans le foyer, même si principalement c'est le français. On a encore la nourriture, on a encore... Donc en ce sens, on est moins coupé des racines que les Afro-Américains qui, eux, avaient passé 400 ans à ne plus pouvoir parler la langue, à ne plus pouvoir faire leur rite, à ne plus être autorisés à des humains. Donc après, il y a toute une reconstruction à trouver pour se dire...
Et se reconnecter, aux origines.
On voit par exemple dans la pièce Un raisin au soleil de Lauren Hansberry... c'est une famille noire afro-américaine dans les années 60 aux États-Unis. Et la fille de la famille tombe amoureuse d'un étudiant du Nigeria, justement, qu'elle rencontre à son université, puisqu'elle étudie pour devenir médecin. Et elle présente bah, cet Africain à sa mère. Et sa mère est paniquée. Elle me dit « Mais moi, je ne vais pas lui donner des bananes. » Elle s'imagine un Africain dans les arbres, avec un pagne. Et sa fille lui dit « Mais enfin, mais ça ne va pas. Puis, toi aussi, tu es africaine. »« Ah non, mais je ne suis pas africaine. Je suis amère. » »« Mais si. » Et du coup, il y a tout ce cheminement que je pense Nina Simone... Alors peut-être elle n'a pas réussi à mettre des mots dessus ou à s'en rendre compte ou même à l'exprimer aussi clairement. Et peut-être même que c'est que mon interprétation très personnelle et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je pense que c'est ce qu'elle a ressenti quand elle est arrivée au Nigeria pour la première fois. C'est se confronter vraiment avec ses origines d'un coup et ça te rappelle encore plus la position... que tu as aux États-Unis, se rappeler que retrouver de la dignité, retrouver, savoir que par exemple, bah ouais, en Afrique, il y avait des grands empires, qu'il y avait des grands rois, que c'est une culture très riche, que et que c'est des langues très riches, des coutumes très riches. Et je pense que ça, bah oui, évidemment, elle a dû le retranscrire d'une manière ou d'une autre.
Et c'est pour ça qu'elle y est restée quelques années. Le Libéria, à chaque fois, elle restait quand même quelques années.
Au Nigeria, elle n'est pas restée. Elle a fait plusieurs séries de concerts et dans d'autres pays d'Afrique aussi. Mais effectivement...
Le Libéria, elle est restée trois ans.
Au Libéria. Là, c'est vraiment 72, 73, je pense. Elle est arrivée au bout du bout de sa fatigue morale, mentale, Puis là, je crois que la maladie, la bipolarité a vraiment pris le dessus sur elle. Et puis elle craque. Enfin, il y a des plein d'anecdotes où et elle explique elle-même dans ses biographies qu'elle est pas bien, que elle entend des voix, que elle pense que son mari c'est son neveu. Elle pense qu'il faut qu'elle embarque dans une navette spatiale. Sur scène, elle parle à son père qui est mort. Qu'elle pense qu'il est sur scène. Elle se teint les cheveux avec du cirage parce qu'elle est obsédée par l'idée que sa peau et ses cheveux doivent être de la même couleur. Elle a de plus en plus de crises de colère. Elle est de plus en plus irascible, mais parce qu'elle est ultra fatiguée, qu'elle n'est pas traitée, qu'on ne l'écoute pas. Et donc, dans les années 70, elle craque. Et elle laisse son alliance sur la table de nuit de sa chambre, de son mari. Et elle part pendant un mois et demi, se reposer à la Barbade. Elle prend un hôtel et elle fait rien pendant un mois. Et elle dort et elle en a besoin. Et puis au bout d'un mois, elle a quand même des concerts qui sont prévus. Donc elle revient aux États-Unis. Et là, son mari est parti. La maison est vide. Elle se retrouve avec le fisc qui lui demande des comptes sur des sociétés dont elle n'est pas au courant, parce que son mari a ouvert plein de sociétés à son nom pour gérer toutes ses affaires, mais n'a jamais payé les impôts. Et quand lui, il a senti le fisc arriver, il a tout fermé, il a disparu. Elle se retrouve face à ça, et là, c'est la panique complète, et puis elle n'en peut plus, elle en a marre de faire des tournées. Elle part au Liberia, parce que Myriam Makeba, son amie, est programmée pour faire des concerts là-bas et lui dit écoute là c'est un peu la galère, viens avec moi. Elle se retrouve au Liberia comme ça et là elle est super bien accueillie. En plus elle est accueillie par la jet set du pays, parce que le Liberia c'est un pays qui a une histoire que j'ai découvert par l'histoire de Nina Simone. C'est une histoire ce pays c'est une histoire incroyable en fait, où en fait c'est un pays qui a été créé par d'anciens esclaves qui, en 1850 ou 1816, je crois, une communauté d'esclaves affranchis apprenait le retour à la maison mère, donc en Afrique, à monter des bateaux. Alors la Black Star Line, c'est une histoire qui est commune, que moi je connaissais, mais par le reggae. Puisque dans le reggae on a deux grands philosophes qui prenaient exactement la même chose et qui avaient également monté une compagnie de bateaux pour retour à la maison mère à l'essimple uniquement. Et donc cette communauté est arrivée au Liberia sur les plages et a été voir les chefs des tribus et leur a dit ben, tu me donnes ta terre ou je te zigouille. Incroyable. Et donc, les populations, vu que tout le monde, eux, les affranchis afro-américains étaient armés, eux pas, bon bah voilà, le jeu a été vite fait finalement. Et on a affaire à une colonisation, de décoloniser, enfin c'est complètement fou quoi. Donc elle arrive elle dans ce pays-là, voilà, donc c'est que la jet set qui l'accueille. Et elle passe 3 ans là-bas et ça lui fait du bien parce que là-bas, on ne lui demande pas de travailler. On la loge gratuitement, on la nourrit. Elle n'a rien d'autre à faire que de s'amuser et de se reposer et puis bah, de laisser libre cours à sa maladie aussi qui là est partie en roue libre complète. Donc, mille et une anecdotes de son passage au Liberia, je pense. Toutes plus croustillantes les unes que les autres. Mais oui, effectivement, et elle passe 3 ans là-bas et elle le dit dans un concert qu'elle fait après, plus tard, quand elle reprend sa carrière. Elle compose un seul morceau qui s'appelle Calypso, Calypso Blues. Et elle dit sur scène que bah, c'est un morceau qu'elle a composé au Liberia, c'est le seul qu'elle a fait et que pendant 3 ans, on lui a pas demandé rien que d'être. Et elle garde cette image-là du Liberia très douce. Pour autant, elle en repart un peu sur un coup de tête. Mais bon,
c'est encore une autre histoire.
C'est Nina Simone.
Alors aujourd'hui, je vous propose comme morceau à écouter après notre échange. C'est une chanson qui a été écrite pour Nina Simone par Charles Aznavour.
Ouais, tout voilà. À fait.
Et qui s'appelle Tomorrow is my turn. Donc, on écoute ce morceau et nous, on se retrouve demain matin pour notre dernière matinée de la semaine. À demain.
À demain.
Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la mer dont il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.